Voilà, que Dieu vous bénisse. J'espère que le soleil ne vous a pas trop accablé aujourd'hui. C'est dur. Je pense à nos frères qui roulent dans les machines toute la journée. En hiver, il a froid. En été, il a chaud. Et voilà, c'est une journée dure pour lui dans le soleil, comme parfois c'est une journée dure dans le grand froid. J'espère que le Seigneur le préserve de tous ennuis de santé sous l'effet accablant du soleil. Parce que nous ne sommes qu'à la fin du mois de mai. Qu'est-ce que ça sera au mois de juillet? Voilà, c'est un souhait que personne de vous ne court trop de risques au soleil. Et qu'ils prennent les protections nécessaires. C'est aussi dangereux que le coronavirus. Voilà, je reprends le thème, chers amis, du Saint-Esprit. C'est avec joie que je le fais. C'est peut-être mon devoir, oui, c'est un devoir, mais c'est aussi avec joie. Et c'est par amour du Seigneur et parce que le Seigneur vous aime aussi. Alors, Seigneur Jésus, je suis heureux d'être avec mes frères et mes sœurs qui écoutent. Je suis heureux d'être avec chacun d'entre ceux qui te cherchent, qui t'aiment, qui t'ont déjà trouvé ou qui vont te trouver. Je suis très heureux d'être avec ceux-là dans lesquels tu fais une action directe par ton Esprit Saint pour aimer ta parole et rechercher ta vérité. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Donc, dans Genèse, au chapitre 6, verset 3, l'humanité connaissait un très très grand désordre dans l'impureté, dans la recherche de puissance, et c'était une catastrophe. Les fameux héros de l'Antiquité, les dominateurs, les oppresseurs, qui ont fait un carnage fou sur cette terre, et les relations sexuelles débridées dans lesquelles les esprits impurs, les démons intervenaient, et qui amenaient à engendrer des personnes désordonnées, rebelles et dangereuses. Ça, c'est Genèse chapitre 6, verset 3, 6 à 1, 1, 2 et 3. Et au verset 3, Dieu dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. » Dieu retire son esprit de l'homme, de l'humanité. Et c'est évident que Dieu veut le donner. C'est pas parce qu'il n'aime pas l'homme. C'est parce qu'on ne peut pas se moquer de ce que Dieu fait pour nous. C'est différent. En contraste à cette parole qui est assez dure, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. » Il y a eu le déluge, etc. Puis Noé, puis Abraham, etc. Les prophètes, et puis Jésus. Il y a une parole dans Romains, chapitre 15, versets 12 à 13, Esaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe, pas le prophète Esaïe, hein. Isaïe c'est le papa de David, Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, le Dieu de l'espérance peut nous remplir de toute joie, de toute paix et d'espérance dans la foi. Chers amis, ça paraît peut-être ordinaire ce verset pour certains, mais j'ai reçu aujourd'hui, hier, des personnes à la maison, je les reçois pendant une heure, trois quarts d'heure, parce qu'elles ont des besoins spirituels, elles sont dans des situations difficiles. Et il est certain que moi je suis très heureux quand je vois ces personnes qui abordent le domaine de l'espérance, de la joie et de la paix par l'action du Saint-Esprit. Ce domaine est divin. Il n'est pas... La catastrophe arrive chez les humains suite au péché. Et c'est pour ça que l'esprit n'est pas resté dans l'humain. Parce que le péché a été prioritaire. Et puis à un moment donné, il amène tellement de peine et de souffrance que les personnes ont besoin de joie, de paix, d'abondance en espérance, et tout cela se fait dans la foi par la puissance du Saint-Esprit. Voilà ce que propose la foi chrétienne, voilà ce que propose Jésus, Voilà ce que propose notre Père du Ciel. Comme c'est la fête de la Pentecôte bientôt, c'est tout de même un thème très important. J'ai déjà abordé le thème du Saint-Esprit avec vous ou d'autres qui écoutez, qui avaient écouté lundi et mercredi. Aujourd'hui, on est vendredi. On est, je pense, le 29 ou le 30. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas exactement. Mais nous allons prendre des choses qui concernent d'abord Moïse. Prenons la première aux Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 4. Et oui, dans la première aux Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 4, eh bien, Paul parle de Moïse. Moïse n'est pas un apôtre, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Il ne faut pas confondre. Frères, 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont été tous baptisés en Moïse, dans la nuée, dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Chaque fois que Moïse frappait le rocher, il demandait à l'Éternel de donner de l'eau au peuple. Sauf une fois, il a interverti les choses. Il a dit au peuple, si vous n'écoutez pas, je ne pourrai pas vous donner de l'eau du rocher. Et ça, il s'est trompé lourdement, il a induit son peuple en égarement avec ça. L'homme humain ne donne pas l'eau du rocher. C'est le rocher qui donne l'eau. C'est Christ qui donne le Saint-Esprit. Ok ? Retenez bien cette image très forte qui a été confiée à Moïse. Et regardons Ésaïe, chapitre 63, versets 11, 10 et 11. Ésaïe. J'aime bien de faire un lien continuel entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Parce que il y a trop de personnes qui ont été enseignées dans leur enfance, dans leur jeunesse, à négliger l'Ancien Testament et à ne pas faire de relation. Et on s'appauvrit, évidemment. On ne connaît pas bien le message de Jésus-Christ si on ne connaît pas le message de Moïse, des psaumes, des prophètes. On ne peut pas être en profondeur dans la parole de Jésus si on n'a pas été voir où sont les racines de cette parole. Elles sont dans la révélation faite à Moïse et aux prophètes. Ésaïe 63, versets 10 à 11. Ésaïe 63, versets 10 et 11. Ils ont été rebelles, en parlant bien sûr des Hébreux. Ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Vous voyez que l'Esprit Saint, dont on a fait référence, Paul a fait référence dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4, le voilà, il en est question ici. Ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Il est Dieu, donc, est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau ? Le Christ, évidemment, le rocher. Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint ? Vous avez vu ces paroles ? Il est clair, il faut comprendre que Paul n'a rien forgé par mythomanie, par mythologie. Il est enraciné dans la révélation. L'esprit des apôtres et l'esprit des prophètes est soumis à l'Esprit Saint. C'est le même Esprit Saint qui a parlé par tous. Vous avez une preuve là, formelle de la connexion dans Saint-Esprit de ces deux révélations. Et donc, si nous voulons lire tout, il faut lire, bien sûr, moi je ne le ferai pas maintenant, versets 9 à 16. Et là, vous verrez, vous aurez un bagage. Vous aurez un bagage plus grand. Vous verrez que déjà dans l'Ancien Testament, au verset 16, on donne le nom de Père à Dieu. Beaucoup de gens, quand ils sont nés dans le catholicisme, on leur a dit... Vous savez, il n'y a que dans le Nouveau Testament qu'on appelle Dieu notre Père, pas dans l'Ancien. C'est un Dieu terrible, dont on a peur, etc. Mais c'est fou. Verset 16. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, Israël ignore qui nous sommes, c'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Lisez les versets 9 à 16, c'est très enrichissant. Lisez-les et n'oubliez pas, à Dieu les préjugés. Il ne faut pas mettre de barrage. Au chapitre 64, verset 7, « Cependant, Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » 64, verset 7. Quand Jésus appelle Dieu notre Père, c'est le même Dieu que l'Ancien Testament, le Dieu qui a été révélé par la plume et la bouche d'Ésaïe, et même d'autres prophètes. Évitons les simplismes, les préjugés, notre ignorance parfois, à laquelle nous donnons trop vite raison, est un ennemi à la parole. Notre ignorance, il faut la mettre sous le talon. Il faut s'instruire, il faut lire régulièrement la parole de Dieu. Et prendre un cahier et noter. Je n'ai pas fait différemment de ce que je vous préconise. C'est comme ça que je me suis enrichi personnellement. Beaucoup plus que par les livres de théologie. Ne l'oubliez pas. La théologie peut éloigner de Dieu, peut faire une grosse tête, pleine d'idées. Mais quand on médite la parole de Dieu, quand on la prend à cœur, qu'on s'incline devant le Seigneur, qu'on prend un cahier, qu'on cherche, on peut alors aller voir parfois dans des livres. Mais attention, c'est la parole de Dieu qui parle de Dieu. Ce n'est pas les livres de théologie qui sont paroles de Dieu. C'est des paroles d'hommes, les livres de théologie. Alors, nous allons aller dans Exode, chapitre 19, verset 9. Exode, le deuxième livre de la Bible, donc il faut aller au début de la Bible, Exode 19, verset 9. L'Éternel dit à Moïse, « Je viendrai vers toi dans une épaisse nuée. » Rappelez-vous que quand Jésus était sur le mont de la Transfiguration, le mont Hermon, hein, dans chaque évangile, Matthieu, Marc, Luc, vers le milieu, il y a l'apparition et la transfiguration sur le mont Hermon, dans une nuée. Et il sort une voix de la nuée. Bien regardez, la voix du Père. Chapitre 19, verset 9 de Exode. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. » Mais ils ne vont pas voir. Ils ne vont pas voir Dieu. Ils vont voir la nuée, entendre la voix. Ça a été de la même façon lors de la transfiguration pour Jésus, qui est le nouveau Moïse sans péché, qui est le Fils de Dieu. Regardons au chapitre 14. Chapitre 14. Verset 19, d'Exode, bien sûr. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Voici un petit commentaire. La nuée, c'est Shekinah en hébreu. Shekinah, ça a été traduit par quoi? Par pneuma en grec. Et pneuma en latin, ça a été traduit par verbum, le verbe. Et en français, pneuma ou verbum, ça a été traduit par l'esprit. Pneuma. En latin, c'est spiritum. Spiritus sancto. Excusez-moi, verbum, c'est pour le Christ. Alors, regardons le verset 24. Chapitre 14, verset 24. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile, etc. Alors les Égyptiens dirent, fouillons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Nous voyons ici que la colonne de feu, au verset 24, la colonne de feu et la nuée, c'est Dieu lui-même qui intervient et qui rend la vie impossible aux ennemis d'Israël, qui sont pourtant faible, sans moyens. Alors, je voudrais vous donner un exemple et vous bien expliquer que ce n'est pas la première et dernière fois. Gédéon a gagné sans une épée. Il a fait crier aux 300 hommes en cassant une poterie et en jetant le flambeau dans les joncs secs. J'ai visité l'endroit, il y a plein de joncs de 2 mètres, 2 mètres 50 qui sont secs. Eh bien, en criant « Gédéon, épée de l'Éternel ». Et les hommes amalécites se sont entretués entre eux. Ils se sont entretués et ils n'avaient pas d'épée. C'était épée de l'Éternel. Bon, maintenant, lors de la guerre de 1967, lorsque Israël a été attaqué par surprise, pour une fois, les services de renseignement israéliens n'étaient pas bien renseignés, n'étaient pas vigilants assez. La Syrie attaque, la Jordanie attaque, l'Égypte attaque. Et c'était, bien sûr, l'Égypte, tout le monde était redoutable, hein, à son niveau. Parce que beaucoup de cadres de l'armée israélienne étaient partis en voyage d'affaires, au boulot, étaient affairés à droite et gauche, et il a fallu qu'ils reviennent, il a fallu qu'ils se rassemblent. Et quand on les a rassemblés, qu'ils ont été là, en retard, je vais dire, les rabbins juifs ont pris le temps de prier avec eux, de jeûner, de prier, et ils ont pris la Bible, la Torah, ils ont pris des textes, comme celui que je viens de vous lire dans Exode, chapitre 14, versets 23 à 25. Et l'autre verset que je vous ai dit, cette nuée, qui était ténébreuse, au verset 19 et 20. Ténébreuse sur les ennemis, lumineuse sur les Israël. Eh bien, ils ont prié, et puis c'était l'impasse. L'ennemi avançait avec une férocité incroyable du côté du nord, du nord-est d'Israël, du côté de la Jordanie et du côté du Sinaï. Et le gouvernement de l'époque a envoyé, parachuté, des rabbins dans tous les postes militaires de là, avec des officiers qui avaient prié avec eux. Et je vous donne un exemple pour ceux qui étaient du canal de Suez. Il y avait plusieurs fortins dans lesquels s'abritaient des officiers et des soldats israéliens. Mais ils étaient très peu nombreux, et de l'autre côté, l'artillerie égyptienne tirait à boulets rouges tout le temps, rouge parce que c'était Nasser, c'était socialiste, communiste, avec l'aide de la Russie évidemment, et ils avaient prévu, pendant la nuit donc, hein, ils avaient prévu qu'à 3h30 du matin, les avions égyptiens de fabrication russe, formés, dont les pilotes étaient formés par les Russes, allaient attaquer Israël, à déboucher sur Israël, sur les fortins, puis ensuite sur le reste d'Israël, et briser Israël complètement, débouter Israël du territoire. Et ce qui s'est passé, c'est que les réunions de prière qui ont eu lieu dans les fortins ont permis de guider l'esprit des soldats qui étaient là, qui n'étaient pas très nombreux. Ils ont quitté, sous le tir des obus, ils ont quitté leur fortin, ils ont pris leur dinghy, c'est-à-dire des bateaux gonflables, comme les réfugiés aujourd'hui prennent dans la Méditerranée. Ils ont traversé le canal de Suez, ils se sont rendus de l'autre côté, vers l'Égypte, où tous les artilleurs travaillaient, envoyaient leurs obus, leurs pruneaux, mais tout le reste, les conducteurs de chars étaient en train de faire la fête, toute l'infanterie, tout le monde était en train de faire la fête, en se disant, quand on arrivera là-bas, il n'y aura plus rien. Pendant ce temps-là, les soldats israéliens sont montés dans les chars égyptiens de fabrication russe et ont tiré sur les Égyptiens. Et toute la défaite des Égyptiens s'est jouée comme ça. Sur la base de la prière qui les a guidés à surprendre leurs ennemis qui se croyaient déjà vainqueurs et ils ont été perdants. Et c'est comme ça que Israël a conquis le Sinaï, puis l'a rendu ensuite à l'Égypte, et qu'il y a eu des accords de paix durables qui sont encore existants, De la même façon, pour les officiers et les soldats qui étaient dans le Golan et qui étaient au bord de la mer du Tibériade et qui reculaient sans cesse, ça a été la même surprise, le même effet de retour du dynamisme hébreu qui n'était pas humain et qui a permis, comme à l'époque de Gédéon, qui a permis de vaincre les envahisseurs. Et sur ce fait, les soldats israéliens ont pris le Golan. Les Syriens se sont enfuis, comme des lapins. Et de la même façon, du côté du Jourdain, du côté de la Jordanie, toute la Cisjordanie qui était jordanienne, hein, et la moitié de Jérusalem, ont été pris et ont été la propriété d'Israël. La guerre de 1967 est la démonstration d'une intervention miraculeuse. Bien sûr, tout cela ne plaît pas à tout le monde, si je le raconte, si je le dis. Mais il faut se renseigner sur les faits, ça s'est passé comme ça. Ils auraient pu avoir peur, ils auraient pu craindre et mourir. Mais ils se sont retournés vers Dieu, ils ont pris l'Ancien Testament, ils ont pris la Bible, ils ont prié, et on a expédié et parachuté les rabbins sur les lieux du combat pour qu'ils prient avec les soldats. J'estime, chers amis, que durant le coronavirus, vous avez un combat contre le doute, contre l'incertitude, contre la dépression. Qu'est-ce qui va encore nous arriver demain? Et il se peut que vous n'avez pas pris assez la Bible. Il se peut que vous n'avez pas prié plus, mais peut-être prié moins. Et si le Seigneur m'a permis de vous envoyer des messages par Internet, j'ai été parachuté dans votre vie, d'une certaine manière. Ce qui compte, c'est que la parole de Dieu vous redonne la force de faire face et de conduire votre vie chrétienne. On a oublié les rabbins de cette époque, comme on m'oubliera aussi. Mais ce qui a été conquis est resté, terre d'Israël. Et ce qui sera conquis dans votre vie restera terre de Christ. Ce qui sera conquis par la foi dans votre vie chrétienne, sur la faiblesse, sur la peur, sur l'angoisse, l'inquiétude, sur la désolation peut-être qui vous a touché, tout cela, ça recule, ça reculera et ça devient terre de Christ. Avez-vous conquis des terrains durant la période de coronavirus, des terrains dans votre âme, dans votre vie morale et spirituelle, pour qu'ils appartiennent à Christ? C'est ça la question. Moi, personnellement, je le pense. On fait souvent des marches arrière, évidemment. On n'est pas toujours brillant. Mais je le pense, oui, je me suis rendu compte que le combat était à mener pour moi-même, mais aussi avec vous et pour vous, et pour bien d'autres que vous ne connaissez pas, qui parfois viennent ici, téléphonent, etc. Mais ce qu'il y a, c'est que l'attitude de l'Esprit de Dieu, le rôle de l'Esprit de Dieu dans le peuple d'Israël a été un moteur. C'est pas seulement un esprit humain qui a agi pour sortir d'Égypte et pour résister aux Égyptiens. Et c'est pas un esprit humain seulement qui a mis la terreur sur les Égyptiens. Vous voyez bien dans Exode 14, verset 25, hein, les Égyptiens dirent alors « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens ». C'est ce qui est arrivé plusieurs fois dans l'histoire. La même chose pour les Syriens. Et Dieu ôta les roues des chars. C'est pour ça que souvent Dieu a dit « Je n'ai pas besoin de vos chars et votre cavalerie. Seulement la force éternelle vous protégera. » Et le prochain épisode qui arrivera à Israël, ce sera Armageddon, où ce sera une pluie de grêlons de 33 à 37 kilos qui tomberont sur les chars, sur les forces armées qui auront envahi Israël, au nord d'Israël. Vous aurez peut-être, durant votre vie, votre vécu, le plaisir, l'avantage de connaître ces événements. Au train où les choses s'accélèrent, on ne sait jamais. Qui sait? Je ne veux pas prophétiser sur ce sujet. Prenons Exode, chapitre 13, versets 21 à 22. Exode, chapitre 13, versets 21 à 22. « L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée. » Je vous ai dit que Shekinah, c'est le Saint-Esprit. Donc, aller devant eux le jour dans une colonne de nuit, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint, pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuit ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Qu'est-ce qu'il a été dit dans l'évangile de Jean, chers amis? Qu'est-ce qu'il a été dit au début de l'évangile de Jean? Allons voir. Que dit Jean-Baptiste? Jean-Baptiste dit ceci, au chapitre 1, verset 33, « Je ne le connaissais pas, mais celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Maintenant, prenons le même témoignage dans Luc chapitre 3, verset 16. Luc chapitre 3, verset 16. Ce n'est pas une contradiction que je veux relever. C'est simplement que Luc a reçu le témoignage des apôtres et de Jésus. C'est plus important que ce qu'avait reçu Jean-Baptiste, qui à un moment donné est mort rapidement quand Jésus a commencé son ministère. Et dans Luc chapitre 3, verset 16, il y a la même parole, mais avec, je dirais, le pili-pili, la sauce ou la mayonnaise, c'est comme vous voulez, de l'expérience avec Jésus-Christ pendant 3 ans, des 40 jours après la résurrection et de la Pentecôte. Et qu'est-ce qu'il a mis? Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est puissant, plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous voyez que le Saint-Esprit et le feu sont liés. Et vous le voyez dans l'Exode. Vous voyez dans l'Exode. Tenez-en, réfléchissez, tenez cela pour du sérieux ou pas, mais réfléchissez, il y a une connexion à faire. Le Saint-Esprit a une autorité formidable dans Exode, au chapitre 13, versets 21 et 22, et le Saint-Esprit est autant feu que nuée. Pourquoi la Pentecôte? Est-ce des flammes de feu qui sont venues sur les apôtres? Voilà, c'est parce que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas des petites flammes, c'est l'Esprit Saint, simplement, représenté par ces flammes de feu. Comme le feu représentait, à l'époque de Moïse, l'autorité de l'Esprit Saint. Alors, je voudrais en venir à un autre passage de la Bible. Nous allons aller dans les écrits de David, et nous allons aller au psaume 31. 31, versets 1 à 6. Psaume 31, versets 1 à 6. Puisse le Seigneur nous enrichir mutuellement. Je suis heureux de partager avec vous toutes ces choses, mais je serai encore plus heureux quand vous les partagez vous-même dans votre cœur avec le Seigneur Jésus, dans la prière, dans la méditation, dans l'oraison. Et je serai encore plus heureux quand, ayant été enrichi par l'activité suprême du Saint-Esprit, par sa compétence en vous, vous puissiez en parler aux autres et les instruire vous-même. Comme une fontaine qui déborde. Psaume 31, versets 1 à 6. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur. Voilà de nouveau le rocher de l'Ancien Testament, Christ. Une forteresse où je trouve mon salut, car tu es mon rocher, ma forteresse. C'est le nom de Dieu donc. Rocher, forteresse. Car à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. C'est la même chose que dans le désert. C'est la même chose que ce qui a été dit précédemment. C'est la même chose que ce qui était advenu au peuple juif à l'époque de Moïse. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Évidemment, je viens de vous expliquer pour mai, pour la guerre de 67, et même pour les conflits qu'a eu Israël précédemment dans toute son histoire. L'histoire d'Israël, c'est un miracle continuel. Je remets mon esprit entre tes mains. Verset 6. Donc, c'est quelqu'un ici qui remet toute son âme, tout son cœur entre les mains du rocher. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles et je me confie à l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse, j'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur, mes années dans les soupirs, ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Après 2 ou 3 mois d'absence auprès des chrétiens, je suis très heureux de pouvoir revoir mes frères et mes sœurs, et eux aussi. Je préfère me taire et écouter. Ça peut durer 1 heure, 2 heures, mais... Et apprécier ce qui s'est passé pendant les 2, 3 mois. Apprécier ce qui va se dire et ce qui va se dévoiler, forcément se manifester. Mais aussi quels sont les besoins. Après, je peux présenter un texte. Après, je peux présenter une nourriture de la part de Dieu. Je pense que quand on se rend compte qu'on a été dans le filet... Et que Dieu est notre protecteur, on doit remettre son esprit entre ses mains. Je remets mon esprit entre tes mains. Comme Jésus l'a fait à la croix. C'est cette parole. Psaume 31, verset 6. Et nous-mêmes, et s'il y avait une épreuve plus lourde et plus dure et plus longue que celle du coronavirus, bientôt, ou dans 1 an, 6 mois, 2 ans, que ferions-nous? Que ferions-nous s'il n'y avait plus rien dans le frigo? Plus rien dans les congélateurs, dans les magasins. Je remets mon esprit entre tes mains. Rappelez-vous que les Hébreux dans le désert, à un moment donné, désespéraient d'avoir à manger. Ils s'en prenaient à Moïse. Ils ont voulu lapider Moïse et Aaron. À ce moment-là, ils ont été piqués par les serpents venimeux. Satan était en train de fermer la boucle et de les détruire. Ils étaient dans la malédiction à cause de leur incrédulité, à cause de leur manque de foi, à cause qu'ils ne remettaient pas leur esprit dans les mains de Dieu. Et il faut faire attention. Analysons comment nous avons vécu pendant les 2-3 mois qui viennent de passer. Analysons, tirons-en des leçons. Il faut en tirer des leçons, mes frères et mes sœurs. Il ne faut pas être négligent et superficiel. Tirons des leçons parce que le futur nous demandera d'être plus forts. Et alors, tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. C'est une foi profonde, quel que soit ce qui arrive. Prenons le psaume 51. 51. Quand on voit ce psaume, je remets mon esprit entre tes mains, on en parlera plus tard, il faut le remettre au Saint-Esprit, évidemment. C'est pour ça mon intention qui est derrière. Psaume 51. Verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Dans la période très difficile, où certains d'entre nous ont été très isolés. N'avons-nous pas été brisés? N'avons-nous pas besoin que Dieu nous annonce l'allégresse et la joie? Et que l'on se réjouisse? Détourne ton regard de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Est-ce que nous ne sommes pas tombés dans la culpabilité en disant c'est Dieu qui me punit, c'est Dieu qui ne me veut plus, qui ne m'aime plus, etc.? Est-ce qu'il n'y a pas eu des tourments? À juste titre peut-être. Si nous avons fait des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, ou à tort, si nous avons une pathologie de la culpabilité et qui n'est pas justifiable. Alors, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Donc, c'est la justification, c'est absolument dégager tout le passé, dégager tout ce qui a été négatif de la vie et efface mes iniquités. Dans le livre de vie, Seigneur, j'ai envie d'être inscrit comme enfant de Dieu et que tout ce qui a été dans mon passé soit détruit, anéanti, effacé. Dans la période de difficulté spirituelle que nous avons connue, il faut avoir pu dire des choses pareilles. Ou alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a été fait comme des enfants. Et alors, au verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Et nous y voilà. Nous y voilà à propos de l'Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Donc, Dieu a l'œuvre dans mon cœur et dans mon esprit. Source de joie, d'allégresse et de force. Source de vérité et de lumière. Nous y voilà. Et on est déjà dans l'Ancien Testament, tout près de ce qu'on appelle la régénération. Tout près de l'élimination de la vie spirituelle. Alors, rends-moi la joie de ton salut, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ce sont des choses très importantes qu'il faut lire. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il faut demander à Dieu cet esprit de bonne volonté que seul le Saint-Esprit donne. Une guérison de la volonté. Et si nous avons été médiocres, ou en tout cas faibles, je dirais handicapés spirituels pendant les 2-3 mois qui ont passé, reconnaissons-le et demandons à Dieu cet esprit de bonne volonté, c'est-à-dire d'une volonté qui soit bonne et forte. Et cherchons l'affermissement dans le Seigneur. Cherchons-le. N'attendons pas qu'il arrive d'autres tuiles. Au verset 19, psaume 51, verset 19, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » L'épreuve nous amène à être plus simple envers Dieu et à perdre des attaches humaines, des amarres. Le bateau doit perdre toutes ses amarres et il doit partir en pleine mer, par la foi. Regardons le psaume 119 au verset 7. 119 ou 139, je vais voir. Je regarde à 139. 139, si vous voulez bien. J'étais un peu mal écrit. Dans le psaume 139, au verset 7, voici ce que David dit. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? David a fait l'expérience de la présence de Dieu dans sa vie. Et il s'est rendu compte qu'il était inévitable. Dieu était là, Dieu avait mis son élection sur lui, Dieu le rappelait sans cesse vers la sainteté, Dieu le rappelait sans cesse vers la repentance et sans cesse vers la droiture, la vérité et le bon témoignage pour son peuple. Et il ne pouvait pas fuir. À un moment donné, chers amis, il y a dans notre vie, quand on est chrétien, quand on est solidement installé dans la vie spirituelle dans le Saint-Esprit, on se rend compte qu'on ne peut plus échapper au Saint-Esprit. Nous avons un témoignage à donner, nous avons une responsabilité à partager avec les autres, nous avons une joie à partager, nous avons une ligne droite à suivre. Et c'est comme un aimant qui nous attire, une force, une puissance, c'est le Saint-Esprit. Et bien sûr, il faut toujours notre consentement, il faut toujours notre obéissance, évidemment. Et c'est pour ça que j'ai pris ce verset, psaume 139, verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, t'es voilà. Tu voilà, si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Que nous soyons dans une période de prospérité, une période de décadence en Europe, soit une période de confinement, qui est peut-être suivi de graves problèmes économiques. Il y a évidemment la présence de Dieu. Pourquoi ce que je fais, moi chrétien, comme s'il n'était pas là? Jésus a dit à ses disciples, dans Matthieu 28, versets 18 à 20, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. » Pourquoi ce qu'on fait, comme si ce n'était pas vrai? Ou que Jésus n'avait pas dit. Nous devons faire attention, les amis. Je pense que l'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse, qui a perdu son premier amour, qui était brillante hein, pour toutes ses œuvres et tout ça, c'était ça son problème. L'église de Sardes aussi. Lisez ces textes, vous verrez dans Apocalypse, l'église d'Éphèse, son état spirituel, l'église de Sardes. Évitons de tomber dans ces travers. Évitons-les. Nous allons prendre maintenant Jérémie, de nombreux passages dans Jérémie, si vous voulez bien. Et nous ne pourrons pas faire tout ce que j'avais prévu, ça sera encore pour une autre fois. Jérémie, chapitre 10. C'est après Isaïe. Jérémie, chapitre 10. Il y a beaucoup de passages, les amis. Je vais devoir faire vite. Chapitre 10, verset 23. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. On l'a bien vu avec le coronavirus, les amis. On l'a bien vu. Et c'est pas fini. Même la société ne savait pas comment se diriger. Elle se débat, elle prend des décisions dans tous les sens. Et ça a été une belle pagaille à certains moments. Donc nous voyons que la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Dieu seul a le pouvoir de savoir d'avance ce qu'il faut faire, ce qui est juste, bien et vrai. Et il faut donc se tourner vers lui. Pourquoi donc la Pentecôte? Mais c'est parce que le Saint-Esprit peut nous conduire. Le Saint-Esprit peut être notre chemin. Le Saint-Esprit a le pouvoir de conduire le peuple chrétien. Voilà. Voilà pourquoi je choisis ce verset. Voilà pourquoi il faut approfondir le don du Saint-Esprit le dimanche, au jour de la Pentecôte. Prenons Jérémie, chapitre 4, versets 3 et 4. 4, versets 3 et 4. Voici ce que Dieu a dit. Chapitre 4, versets 3 et 4. Ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau. Ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un champ nouveau. C'est un cœur nouveau, sans épines. Ça veut dire sans les péchés, sans le doute, sans l'incrédulité. Il faut que quelque chose soit coupé dans notre cœur, il faut qu'il soit circoncis. Il faut que Dieu entaille quelque chose et le retire. C'est un thème extrêmement important, la circoncision du cœur. Dans Paul, au chapitre 2, circoncis de cœur, oui, il le dit. Et la louange du vrai Juif vient du Saint-Esprit. Pas de la circoncision charnelle, mais de la circoncision spirituelle. Et donc, nous allons aller plus loin dans Jérémie. Nous allons aller au chapitre 17, verset 1. Nous allons progresser. C'est un peu plic-ploc, mais j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. C'est pour vous obliger, si vous voulez bien, sans vous obliger, c'est-à-dire vous inviter fortement à lire tout Jérémie et tout Ézéchiel. Vous allez voir qu'il y a des choses formidables. Jérémie 17:1. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Donc sur les autels, la religion. Il est inscrit. Là même, au cœur de la religion, hein, le péché. Et deuxième chose, dans les cœurs. Ce qui revient au même. Religion et cœur souvent sont liés. On pratique une religion avec le cœur et souvent sans Saint-Esprit. Et puis on s'égare à cause du cœur. Et le péché est inscrit avec un burin de fer avec une pointe de diamant. Donc il est fortement gravé, fortement incrusté. Et il est difficile, on ne peut pas effacer ça, le péché. Sauf un, le sang de Christ, Jésus, par la volonté du Père. Si notre péché est crucifié, il est effacé de notre cœur. Et le Saint-Esprit est donné. Chapitre 18. Versets 3 à 6. Commençons au verset 1 plutôt. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Il y avait beaucoup de potiers à cette époque-là. Dans toute la civilisation, il n'y avait pas le plastique. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Nous sommes avec Israël dans la main de l'Éternel. Et notre vie ancienne, la première façon d'être, le premier vase, est refondu. Il faut en refaire un autre. Et c'est Dieu qui le fait. Nous devons être l'ouvrage de Christ. En Christ, recréé à nouveau, par les mains du divin potier, le Christ. Le Seigneur Jésus est venu pour ça. Alors, nous allons poursuivre. 20, verset 6, chapitre 20, verset 6, de Jérémie, verset 7 plutôt. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Ce sont des paroles formidables dans la vie spirituelle d'un homme qui a les mêmes chromosomes que nous. C'est un être humain qui avait le péché d'Adam en lui. Et regardez, il ose dire ça. Est-ce que durant le coronavirus, pendant les 2-3 mois d'arrêt, nous avons pu avouer des choses pareilles à Dieu, dans le secret de notre chambre, à genoux, ou à table, devant la Bible. Tu m'as persuadé, Éternel, je me suis laissé persuader, tu m'as saisi, tu m'as vaincu. C'est toi maintenant mon maître. Avant, je comptais sur moi-même, sur mon cœur. Le cœur de l'homme est tortué, ne te confie point en lui. Dans le cœur de l'homme, c'est aussi dans Jérémie. Alors, il est clair que celui qui accepte l'œuvre de Dieu, celui qui accepte l'œuvre de Dieu, de l'Esprit de Dieu, vous savez que Jean-Baptiste a dit dans Luc, chapitre 1, 3, verset 16, qu'il nous baptisait d'Esprit Saint et de feu. Eh bien, regardez, au verset 9 de Jérémie, chapitre 20, verset 9, « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, je ne le puis. » Dans la vie spirituelle, une fois qu'on a été saisi par le Saint-Esprit, qu'on est dans les mains de Dieu, c'est ça que vous voyez au verset 7 et là au verset 9. Lorsqu'on est dans les mains de Dieu, il n'y a plus qu'à accepter d'y rester. Et puis, pourquoi vouloir jouer comme si on pouvait y être dedans et hors? Il n'y a plus qu'à vouloir y rester. Quelque part, on devient serviteur du potier, on devient l'argile du potier, et on est conduit par le feu dévorant, c'est-à-dire Dieu lui-même en nous. qui est renfermé dans mes os, c'est-à-dire dans mon être intime, dans tout mon être intime. C'est fort important, ces paroles, elles sont belles, elles sont profondes. Et prenons le chapitre 24, verset 7. Quand on analyse la vie de Jérémie, on est tout proche d'une vie chrétienne, tout proche. Sauf qu'il n'y avait pas encore Jésus mort sur la croix pour ses péchés, et que le Saint-Esprit n'est pas donné à demeure toujours. Mais il vivait avec passion la parole de Dieu et il voyait l'Esprit Saint lui parler. Et il le désirait profondément. Chapitre 24 de Jérémie, verset 7. « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Parfois, nous chrétiens, ici en Europe, on est dans la même situation, il faut revenir à Dieu. Il faut revenir à Dieu de tout notre cœur. Si la crise du coronavirus a été bénéfique, c'est peut-être dans ce sens-là. Chapitre 29, verset 19. Je vais essayer de terminer rapidement. Chapitre 29, verset 19. « Parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel, eux à qui j'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, à qui je les ai envoyés dès le matin, qu'ils n'ont pas écouté, dit l'Éternel. » Vous voyez ici l'insistance de Dieu. Il a pris des moyens humains, il a pris des moyens à la fois humains et divins, c'est les prophètes. Et il a parlé à son peuple. Aujourd'hui, vous avez le choix, comme à l'époque de Jérémie. Il y avait des faux prophètes, il y avait des faux serviteurs de Dieu, qui mettaient de la pommade sur tout, et qui leur disaient, soyez pas tracassés, vous pouvez être en paix, Dieu est content de vous, etc. Puis l'autre, Jérémie, l'empêcheur de tourner en rond, qui mettait chaque fois la dague, le glaive dans la moelle des os, et qui faisait mal, qui secouait. Mais il n'y avait pas que Jérémie, il y en avait eu des autres. Et vous voyez qu'ici, Dieu dit, ils n'ont pas écouté, je les ai envoyés dès le matin. Ben oui, avant qu'ils aient bu, avant qu'ils aient fait n'importe quoi, qu'ils soient dilués dans leur travail ou leur plaisir. Ils les prenaient au pied du lit, ils étaient à peu près frais. Donc, vous voyez à quel point la parole est très réaliste. Nous allons aller plus loin. Au chapitre 32, verset 33. Chapitre 32 de Jérémie, verset 33. Ils m'ont tourné le dos, ils ne m'ont pas regardé. On les a enseignés dès le matin, ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. Je suis persuadé qu'une grosse partie de la chrétienté européenne, c'est ça. C'est ça. Je ne souhaite pas que vous soyez dans cette partie de la chrétienté. Ils m'ont tourné le dos, ils ne m'ont pas regardé, on les a enseignés dès le matin, ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. Mes amis, je ne pense pas que c'est nécessaire d'insister. Il y a eu tellement d'égarements en Europe à propos du christianisme, et Dieu promet quelque chose. Dieu promet quelque chose. Verset 38, « Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu, je leur donnerai un même cœur, une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après. Je traiterai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien. Je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur, toute mon âme. » Retournons au chapitre 33, versets 7 et 8. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël. Je les rétablirai comme autrefois. La prophétie est accomplie et encore en cours. Mais l'Israël, par Jésus, se prolonge dans nos cœurs, dans nos vies. Je les purifierai toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes leurs iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils sont révoltés contre moi. Comment donc ? Comment pardonner ? Mais Jésus sur la croix, Père pardonne-leur, c'est pas ce qu'ils font. Le sang de Jésus a payé pour qu'il soit pardonné, et nous aussi, pour notre péché. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre. Voilà des versets qui sont extrêmement importants et qui nous apprennent le plan de Dieu. Le plan de Dieu sur tous ceux qui sont d'Israël et qui descendent d'Israël. Y a-t-il possibilité de trouver encore dans Jérémie d'autres versets? Oui, bien sûr, si vous lisez tout. Mais moi, je vous invite à lire tout Israël, tout Jérémie, tout Ézéchiel. Vous trouverez par vous-même la richesse du confinement. Moi, je suppose, c'est que vous ayez lu plusieurs livres de la Bible avec attention. Plusieurs livres avec attention. Dans la paix du cœur, avec le désir que Dieu vous parle. Et si ça n'a pas été fait, il est encore temps de le faire, les amis. Il est encore temps. Parce que Jésus a dit, celui qui m'aime garde ma parole. Celui qui demeure dans ma parole, mon Père et moi, nous ferons notre demeure en lui. Il faut savoir connaître notre responsabilité devant la parole. Et ne nous apitoyons pas sur nous-mêmes si nous avons négligé la parole durant les 2-3 mois. Prenons courage, reprenons courage, allons dans la parole, sérieusement les amis. C'est notre source de vie. Hébreux, chapitre 10, verset 16. Hébreux, chapitre 10, verset 16. Je vais commencer au verset 10, verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, c'est dans l'Ancien Testament, « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Or là où il y a pardon des péchés, à la croix bien sûr, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Donc Dieu promet, Dieu a promis de mettre les lois dans le cœur, non plus sur des tables de pierre, mais dans les cœurs, l'écrire dans l'esprit. Donc ça parle dans l'âme, dans l'esprit, continuellement. On connaît les pensées de Dieu, on connaît ce que Dieu veut et ce qu'il ne veut pas. Et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Donc il n'est plus là pour accuser parce qu'il nous a pardonné dans le sang de Christ. Et ça, c'est ce qui est mis là. Vous lisez les versets suivants, 19 et 20, et vous allez voir. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire céleste, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son humanité, et puisque nous avons un souverain prêtre, donc un intercesseur, établi sur la maison de Dieu, c'est nous la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Donc, l'esprit nouveau, le pardon de Dieu, sa justice sur nous, qui nous accorde son pardon, et l'esprit nouveau, les lois vivantes dans notre cœur, les amis, c'est le cadeau qui a été préfiguré dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, et qui concerne le don du Saint-Esprit à la Pentecôte. Alors, prenons le chapitre 8 d'Hébreux, et puis on va arrêter. Chapitre 8, versets 10 à 13. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Hébreux, chapitre 8, versets 10 à 13. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant, deux points, une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne décadente. Ce qui est ancien, ce qui est vieilli, a vieilli et est prêt de disparaître. Chers amis, pour la Pentecôte, les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament sont totales. Et Nicodème ne les connaissait pas. C'est quand même incroyable. Nicodème, qui était docteur de la loi, qui vient auprès de Jésus, comment puis-je naître de nouveau, comment faut-il faire, etc. Et donc, et nous? Et nous, dans notre vie? Est-ce que je suis né de nouveau? Ou est-ce que jusque maintenant c'est ambivalent, c'est pas clair ou pas du tout? Et si je suis né de nouveau, tout est grâce, même en période du coronavirus, tout est grâce. Dans notre faiblesse, Dieu peut se glorifier, Dieu peut nous faire grandir. La puissance du Saint-Esprit est sur le chrétien qui est né de nouveau. Le chrétien qui n'a pas écouté le Saint-Esprit durant la période de confinement, qui n'a pas été dans sa parole, a souffert, beaucoup souffert. Mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Il faut se corriger, il faut s'amender, il faut remédier à cela, prendre ses responsabilités. Chers amis, c'est avec amour que je vais donner ce message. C'est avec une profonde joie parce que je ne souhaite que beaucoup de bien, le plus grand bien pour chacun de vous et pour moi aussi. Le plus grand bien, c'est-à-dire l'Esprit Saint à l'œuvre en nous. À bientôt, chers amis. Et gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. Et je suis heureux d'être avec vous par les ondes, par Internet. Amen. Amen.